Bonsoir chers amis et bon carême à tous. Nous sommes maintenant engagés dans le carême et nous progressons vers Pâques. Et je veux dire que ça rentre un petit peu en résonance avec l'auteur que le grand saint dont nous allons parler aujourd'hui, Saint Grégoire de Nyssa, qui a beaucoup développé le thème justement de la marche, de la progression vers la lumière. Voilà. Il y a quelque chose là qui résonne et vous allez voir comment ça peut résonner. Donc nous allons parler de Saint Grégoire de Nyssa. Les dates de ce grand saint, c'est 332 à peu près, c'est toujours à une ou deux années près. 394. Le plan de mon exposé va être divisé en quatre parties cette fois-ci. Le contexte, il me semble important de parler du contexte, vous allez voir pourquoi. La vie, les œuvres et la théologie, la pensée théologique. Pourquoi c'est important de parler du contexte ? Parce que la période pendant laquelle a vécu ce grand saint marque en quelque sorte un tournant tout à fait capital, un tournant historique très important. D'une certaine façon, c'est la fin de cette période agitée du IVe siècle et c'est une stabilisation avec le règne de Théodose, les dates de Théodose, c'est 379-395. Cette stabilisation, elle se situe à plusieurs niveaux, aussi bien sur le plan historique, sur le plan religieux. Nous assistons à une véritable fin de l'agitation du IVe siècle, le début, en quelque sorte, d'une nouvelle période. Et l'on peut dire qu'avec le règne de Théodose, une page est vraiment tournée. On peut dire qu'avec le règne de Théodose, la page de l'Antiquité et la page du paganisme est tournée. Bien sûr, il y aura encore quelques accès de fièvre, mais c'est secondaire. La fin du règne de Valens, qui a précédé donc Théodose, est marquée par une pression constante des Goths et leur installation dans l'Empire. Valens lui-même va avoir beaucoup de mal pour arrêter les Goths. D'ailleurs, il ne les arrêtera pas, parce qu'il va mourir au combat en 378, à la bataille d'Andrinople. Et Théodose se doit de redresser la situation. Les Goths vont s'installer au cœur de l'Empire, puisqu'ils vont s'installer en Thrace. Ils vont s'installer en Thessalie. Et auparavant, d'ailleurs, l'empereur Valens avait installé des Goths en Asie mineure. Ceux qui, d'ailleurs, sont appelés Scythes, par erreur, par Grégoire de Nyssa. Ils se soulevèrent en 379 et Théodose fit campagne contre eux. Cette campagne sera un succès. Il est vainqueur en 380 et il va se faire baptiser à Thessalonique. Théodose va prendre des positions nicéennes, il est baptisé et en 380, il va faire une entrée solennelle à Constantinople. Et ça, c'est très important aussi. Pourquoi ? Parce que désormais, Constantinople devient vraiment la capitale politique de l'Empire. C'est-à-dire que Constantinople, c'est le lieu où va séjourner l'empereur et sa cour. Donc, suprématie politique, en quelque sorte, de Constantinople, qui va s'accompagner d'une suprématie aussi religieuse. En 381, c'est le concile œcuménique de Constantinople, donc le premier après celui de Nicée, et le troisième canon du concile explique « L'évêque de Constantinople a la primauté d'honneur après l'évêque de Rome parce que Constantinople est la nouvelle Rome. » Donc, on a vraiment un déplacement, en quelque sorte, une stabilisation du centre de gravité de l'Empire, de l'ensemble de l'Empire, qui se fait à Constantinople. Cela aura beaucoup de conséquences, si vous voulez, parce que, du coup, les évêques cappadociens vont se retrouver projetés au devant de la scène. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la province du Pont s'étend jusqu'au Bosphore. Auparavant, si vous voulez, les Cappadociens étaient plutôt orientés vers Antioche, qui était quand même le grand centre. Mais quand Constantinople va prendre toute son importance, eh bien, ils vont se tourner vers cette ville. Et d'ailleurs, au début de 379, les orthodoxes de Constantinople demanderont à Grégoire le théologien, qui est donc un ami de Basile, qui était l'ami de Basile, et qui avait été fait par Basile évêque de la ville de Saint-Cyme, eh bien, les orthodoxes de Constantinople vont lui demander de devenir évêque de Constantinople, ce qu'il va accepter. Donc, la position de Grégoire va être consolidée par l'entrée de Théodose dans la ville en 380, consolidée par rapport en particulier aux Ariens. 381, Concile de Constantinople, c'est le triomphe en fait de Nicée, c'est la fin de toutes les querelles, c'est la débâcle des Ariens, c'est l'affirmation de la divinité de l'Esprit-Saint, c'est la stabilisation du symbole de Nicée-Constantinople, et Grégoire de Nice, comme Grégoire le théologien, ont joué un très grand rôle dans ce concile. Bien sûr, la lutte va continuer par la suite, et en particulier la lutte contre l'arianisme, et qui va être marquée par un combat contre Eunome, dont on reparlera. Par ailleurs, les pratiques païennes n'ont pas complètement disparu, et c'est au cours du règne de Théodose qu'on va avoir la suppression définitive des pratiques païennes. Les temples vont fermer. Déjà, sous Valens, il y avait des mesures qui avaient été prises très restrictives, et avec Théodose, c'est la fin. Désormais, le paganisme va subsister, bien sûr, il existera longtemps, mais il ne pourra subsister que sous une forme clandestine. Et il sera puni par la loi comme étant un délit. Sur le plan social, évidemment, le développement de la cour et le développement de l'appareil étatique va entraîner aussi un accroissement du poids et du rôle des fonctionnaires dans les villes, dans l'organisation municipale. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que, si vous voulez, l'ancienne aristocratie municipale qui était païenne va progressivement être remplacé par une nouvelle aristocratie, en quelque sorte, qui est chrétienne. Sur le plan culturel, ce qui est intéressant, je résume, je ne vais pas trop dans les détails, c'est, vous voyez, donc, en gros, on a, si vous voulez, un déplacement de, disons, un déplacement de l'ancienne aristocratie qui est progressivement remplacé par des chrétiens. Et donc, les chrétiens eux-mêmes vont de plus en plus assumer ce qu'il y avait de positif et de bon dans la culture antique. Et on va voir en particulier, ça c'est un phénomène important, leur intérêt pour la science. Leur intérêt pour la science, leur intérêt pour la médecine, etc. Alors que le paganisme, si vous voulez, va devenir une sorte de mysticisme assez bizarre, matiné de néoplatonisme et de pratiques païennes, bon, ce qu'on appelle la théurgie. C'est-à-dire que le paganisme va se réduire, en quelque sorte, dans des pratiques cultuelles mystiques, alors que le christianisme va s'étendre aux différents domaines de la société. Cette influence, donc, ça, c'est très sensible chez Saint Grégoire de Nice, je crois. Et une grande partie de son œuvre porte sur une anthropologie qui est importante. Je ne développerai pas trop cet aspect du sujet parce que cela a été fait. Vous avez des cours du père Jean Bobok qui a fait des cours sur en particulier l'anthropologie de Saint Grégoire de Nice et ces cours sont en ligne. Vous pouvez en disposer, vous pouvez les écouter et donc je vous renvoie à ces cours. Le problème, si vous voulez, central qui va être développé, c'est la question de l'âme, au fond. C'est ça qui va être discuté. Et cette question de l'âme n'est pas, si vous voulez, abordée de façon abstraite, mais elle est souvent abordée en liaison avec la christologie. D'une part, nous avons une pensée théologique, bon, on a déjà parlé, on a parlé d'Apollinaire, par exemple, Logos Sartre, c'est-à-dire verbe chair, qui donne une importance dominante à l'aspect logos au dépens de l'aspect sarx. Et par exemple, il va expliquer que la partie de l'âme qu'on appelle le nous, eh bien en fait c'est le logos. C'est-à-dire que l'humanité du Christ n'est pas complète, si vous voulez. Alors que vous allez avoir une réaction contre cette tendance qui va tendre à expliquer que l'humanité du Christ est complète, c'est ce qu'on appelle, disons, la théologie logos anthropos. La philosophie aura aussi, bien sûr, une certaine influence sur les pères, c'est tout à fait normal, je veux dire. Il faut bien comprendre que les gens parlent la langue de leur temps. Ils ne sont pas des martiens. Ils reçoivent une éducation. Et c'est tout à fait normal qu'ils emploient des termes qui se réfèrent à un contexte philosophique, souvent. Mais en même temps, ce sont des chrétiens. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont prendre ces termes, qui sont les termes de l'éducation commune, et en même temps leur donner un contenu différent, les transformer. Et ça, j'en ai parlé dans le deuxième cours de cette année, je crois, où je parle des grands systèmes philosophiques, et je donne des exemples très précis pour montrer en particulier comment Saint-Grégoire de Nice utilise des termes qui apparemment sont très connotés philosophiquement, mais en même temps les transforme en leur donnant un sens pleinement chrétien. À cette époque, il n'y a plus de grandes écoles, il n'en subsiste plus guère qu'une. Enfin, c'est le néoplatonisme, hein, c'est le platonisme relu et revu par l'école néoplatonicienne. Néoplatonisme, je vous renvoie au deuxième cours, j'en parle, qui va évoluer, si vous voulez, avec deux tendances. Un néoplatonisme mystique et philosophique, qui sera celui de Porphyre, par exemple. Et alors, un autre néoplatonisme, qui est un peu bizarre, et qui va avoir une certaine influence au IVe siècle, c'est celui de Jean Blick. J-A-M-B-L-I-Q-U-E. C'est un néoplatonisme qui essaye d'intégrer les pratiques traditionnelles, les pratiques du culte traditionnel, y compris même certaines pratiques magiques et théurgiques, cette action sur les dieux, en leur donnant un caractère philosophique. Voilà. Donc, et ce néoplatonisme, si vous voulez, va influencer beaucoup un empereur comme Julien l'Apostat. Et ce néoplatonisme va subsister encore sous le règne de Théodose, en particulier dans ce qu'on va appeler l'école d'Athènes, qui va connaître d'ailleurs un certain rayonnement, il va y avoir un certain rayonnement avec des gens comme Proclus, Damascus, et qui ne sera fermé que par Justinien en 529. Alexandrie, c'est un petit peu différent. Curieusement, je trouve que l'école d'Alexandrie est plus intéressée par des problèmes scientifiques. On peut, par exemple, Théon, T-H-E-O-N, Théon d'Alexandrie, qui s'intéresse beaucoup à des problèmes scientifiques. C'est un mathématicien, c'est un astronome. Sa fille sera Hypatie. Et elle se rattachera elle-même au néoplatonisme. C'est la fameuse histoire d'Hypatie. Mais ça viendra plus tard, ça viendra au Ve siècle avec Cyril d'Alexandrie. Donc on a tout un mouvement qui prend des aspects assez différents. Soit on a, disons, une tendance qui va vers une forme philosophique et qui va influencer aussi par exemple Eunome, E-U-N-O-M-E, Eunome, et qui va être influencé par le néoplatonisme, et ça j'en ai parlé dans le deuxième cours, donc je renvoie à ça. À côté de ça, il est aussi influencé par Jean Blick, dont je viens de parler, qui lui-même est influencé par des influences qui viennent de Syrie, en particulier avec un ouvrage, ce qu'on appelle les oracles chaldaïques, les oracles des Chaldéens, qui est considéré comme une sorte de révélation divine. Quelle va être l'attitude des chrétiens par rapport à ça ? Eh bien, les chrétiens vont avoir une position, enfin, d'une part, ils sont de leur temps, mais en même temps, ils sont profondément chrétiens, ils se fondent sur l'Écriture, et donc, leur christianisme va être une sorte de filtre. Et ils vont retenir certaines choses de la culture antique, et ils vont en rejeter d'autres, par exemple, un texte de Grégoire de Nice le dit clairement, La philosophie païenne enseigne l'immortalité de l'âme, c'est ce qui est bon en elle, mais elle enseigne la métempsychose et le passage de l'être spirituel à animal, c'est là ce qui est étranger. Il y a bien d'autres exemples, elle enseigne l'existence de Dieu, mais elle le croit matériel. Elle confesse qu'il est démiurge, mais elle ajoute qu'il a besoin de matière pour faire le monde. Il y a la préexistence de la matière. Elle lui attribue bonté et puissance, mais elle le soumet à la puissance du destin. Donc là, vous avez clairement affirmé bon, comment se situent les chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens sont de leur temps, ils prennent tout ce qu'il y a de la culture antique, mais ils n'en gardent que ce qui est conforme à la révélation et aux Écritures. L'Écriture est, disons, la base de l'enseignement et de la doctrine de Saint Édouard de Nice. On a relevé en lui des influences néoplatoniciennes. On sait qu'il connaît, qu'il a lu les Énéades de Plotin, par exemple. Bon, ça intéresse beaucoup certains occidentaux qui sont prêts à trouver telle ou telle citation, mais qui sont moins sensibles peut-être à l'utilisation des Écritures. Enfin, on peut relever des ressemblances entre Grégoire et des néoplatoniciens du début du 5e siècle, comme Proclus. On a fait d'ailleurs une comparaison intéressante. Par exemple, on a comparé le traité de la création de l'âme, le traité sur l'âme et la résurrection, avec certains éléments qui se rattachent à un autre courant, et en particulier avec, par exemple, Cicéron, Definibus, etc., le traité anonyme sur le monde, avec Philon d'Alexandrie, avec Galien, qui est un médecin, G-A-L-I-E-N, on en reparlera, etc. Et, par exemple, vous avez un chercheur qui s'appelle Von Ivanka, V-O-N Ivanka, I-V-A-N-K-A, qui a comparé un passage du De Natura Deorum de Cicéron et un passage du traité sur la création de l'homme de Grégoire. Ben, évidemment, ça ne veut pas dire que Grégoire a lu Cicéron, ce qui me semble difficilement possible, mais ça veut dire que les deux ont une source commune. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que tout cela montre que le christianisme, et en particulier au travers de Grégoire de Nice, au moment où le paganisme reflue vers des pratiques un peu mystiques et rituelles, eh bien, le christianisme s'étend de plus en plus dans le domaine de la science, dans le domaine de la culture, et en fait, c'est le christianisme qui est en train d'assumer la tradition hellénique, dans ce qu'elle a de bon. Et si vous voulez, on peut mettre en corrélation ce mouvement avec le fait que dans la société, ce sont progressivement les chrétiens qui vont assumer de plus en plus les charges de l'organisation de l'État. Pourquoi cela? Sur le plan philosophique, c'est intéressant de pourquoi cela? Parce que je crois que la différence fondamentale, si l'on peut dire, du christianisme, tradition biblique, avec la tradition grecque, c'est l'importance accordée à la matière. C'est-à-dire que il y a dans sous-jacent, c'est pas toujours très clair, mais c'est souvent exprimé, dans la tradition philosophique grecque, un certain mépris pour la matière. Déjà, Platon disait « soma, sema », bon, c'est bien connu, « le corps est une prison ». Ou Plotin, par exemple, et les néoplatoniciens vont considérer qu'au fond, la matière, c'est le mal. Pourquoi cela? Parce que la matière, c'est ce qui est inorganisé. Ce qui est organisé est composé, pour Plotin par exemple, de forme et de matière. La forme, c'est ce qui informe la matière, c'est ce qui la structure. Donc vous avez cette dichotomie, si vous voulez, et c'est aussi la façon, un petit peu, dont les Grecs concevaient l'âme. C'est-à-dire que l'âme est la forme du corps, pour Aristote. C'est-à-dire qu'elle informe le corps, elle donne sa forme au corps. Mais, vu de cette façon, vous voyez bien qu'il y a une espèce de dichotomie entre, d'une part, une forme, et d'autre part, une matière. Et ça, c'est particulièrement sensible, par exemple, dans la pensée d'Apollinaire. C'est-à-dire que le Christ joue en quelque sorte le rôle de forme. Il informe la matière qui est sarx, qui est la chair. Cette dichotomie, évidemment, n'est pas fondamentalement contraire même à la démarche biblique. Pourquoi? Parce que dans la démarche biblique, Dieu vit que c'était bon. Dieu a créé le monde, Dieu a, et il a, la matière et n'est pas mauvaise en soi, le monde est bon. Donc vous avez sous-jacent, si vous voulez, alors, à la pensée hellénique et traditionnelle, une opposition qui n'est pas celle de la pensée, disons, de la révélation. C'est important pour comprendre la suite, si vous voulez, en particulier la conception même de la création du monde, la genèse. Alors, on dit souvent, Saint Grégoire de Nice est inspiré par Philon d'Alexandrie. D'accord, mais enfin, Philon d'Alexandrie est inspiré par la Bible. Donc, ce qui est premier, c'est pas Philon d'Alexandrie, c'est la Révélation et c'est la Bible. Origène a joué un certain rôle. Oui, c'est vrai qu'Origène a joué un certain rôle. Et Origène a joué un rôle tout à fait positif, je dois dire, à bien des égards, et qu'on l'a souvent critiqué pour, alors qu'il ne le méritait pas du tout. Il y a des points sur lesquels Origène méritait d'être critiqué et condamné à juste titre, mais il y en a d'autres qui ne méritaient pas du tout. Par exemple, Origène est le premier à avoir eu une démarche, d'ailleurs c'est assez amusant parce que c'est précisément, on lui reproche le contraire, d'avoir eu une démarche critique pour l'établissement du texte biblique. Avec ces fameux exemples, c'est-à-dire ces six colonnes, il essayait d'aboutir à un texte biblique clair, parce qu'il y avait plusieurs versions du texte qui circulaient. Il y avait une version hébraïque, bon, et il y avait plusieurs versions grecques. Donc il a établi, il a cherché, c'est quand même extraordinaire, il a cherché à établir la version correcte du texte biblique. Par ailleurs, il a eu cette influence qui s'est exercée à Césarée, en Palestine, et qui a rayonné après tout sur l'ensemble des Cappadociens. Et les Cappadociens lui seront toujours très reconnaissants On peut dire que les Cappadociens, en général, sont des grands admirateurs d'Origène, et notamment avec la fameuse Philokalie d'Origène. Les sciences, nous avons, avec Saint Grégoire de Nice, le témoignage d'une sorte d'esprit positif. Il exalte, par exemple, l'esprit d'invention. D'où viennent les sciences les plus hautes? D'où la géométrie, la science des nombres? D'où la physique et l'invention des machines et les merveilles opérées dans les horloges par l'eau et l'air? Tout cela est produit, le produit de l'invention des hommes. Donc, d'ailleurs, si le règne de Théodose est assez peu brillant dans le domaine philosophique, il l'est sur le domaine, dans le domaine scientifique. Grégoire va pousser ses recherches assez loin, dans différents domaines, en physique, en linguistique, et il nous donne d'ailleurs une image assez précise du temps, des connaissances de son époque. Et à la différence d'ailleurs de beaucoup, et en particulier des occidentaux, je pense à Augustin, sa culture n'est pas une culture rhétorique. Les grands noms de la science de son temps, ce sont Théon d'Alexandrie, dont nous avons parlé, qui a commenté l'œuvre d'Euclide et de Ptolémée. Bon, en physique, c'est un grand savant qui s'appelle Végès. Dans la médecine, c'est Oribase, O-R-I-B-A-S-E, qui va être un médecin de la cour de Julien à Théodose, et qui va écrire une encyclopédie médicale en 70 volumes. Voilà. Pour ce qui est, quelles vont être les conséquences de cette science sur Grégoire? Saint Grégoire, d'abord, s'intéresse à la structure même du monde matériel. Il adopte la théorie des quatre éléments. Les quatre éléments, vous le savez, c'est le feu, l'air, la terre et l'eau, qui sont disposés dans l'univers d'après leur densité. Le feu, c'est le monde des astres, puis vient l'air, puis vient l'eau, puis vient la terre. Et ces éléments se mêlent les uns aux autres. L'eau, en montant, devient vapeur, puis en se condensant, devient pluie. Et d'ailleurs, il est très intéressé par la transformation des nuages. En particulier, bon, il a une conception du cosmos qui est proche de l'évolution. Et on va y revenir. Et en particulier l'idée que Dieu a créé au début en puissance l'ensemble de l'univers qui, après cela, s'est développé. Mais on va y revenir, c'est très intéressant. Grégoire a décrit à de nombreuses reprises le mouvement céleste. Bon, on sait très bien que la Terre est ronde à l'époque. Ça ne pose pas de problème. On le sait à Alexandrie. On a même calculé le pourtour de la Terre en calculant notamment mettant un pieu à Alexandrie, en le mettant le même pieu à Assouan, et en calculant la différence de l'ombre entre Assouan et Alexandrie, et en projetant ça sur un cercle, sur une circonférence. Donc on est arrivé, comme ça, parce qu'on connaissait la distance qu'il y avait entre Alexandrie et Assouan, et donc on est arrivé, comme ça, à avoir une approximation, et c'est pas mal du tout pour l'époque, disons, de la circonférence de la Terre. Bon. Il décrit le mouvement céleste, etc. D'après les hommes, dit-il, versés dans la connaissance des astres, le monde entier est rempli de lumière et l'obscurité est produite par l'interposition du globe terrestre. L'ombre, suivant la forme sphérique de la Terre, se termine en cône derrière les rayons soleil, et le soleil, ayant plusieurs fois la dimension de la Terre, rejoindrait au sommet du cône le faisceau lumineux. Quelles sont les questions qui sont vraiment discutées à son époque? C'est par exemple, qu'est-ce que la matière céleste? quel est le mécanisme du mouvement cyclique des astres. Et on voit que dans sa, disons, dans son approche générale, il a une approche qui reste purement scientifique. Et d'ailleurs, il n'y a aucune trace d'influence de l'astrologie qui était extrêmement courante à son époque. Au contraire, il va prendre les astrologues à partie dans un traité du destin. Et donc, en ceci aussi, il va s'opposer à Jean-Luc. Je pourrais dire aussi beaucoup de choses sur son intérêt pour la physiologie et la médecine. Il est sûr qu'il a une culture médicale assez poussée. Dans son traité sur l'homme, il a une description assez précise de sa conception et de ses connaissances physiologiques. Et il est très influencé par un certain Galien, G-A-L-I-E-N, médecin célèbre, qui lui-même se rattache à Platon, etc. De même, il a une conception de la voix, mais je passe là-dessus, et on notera en particulier sa polémique contre les localisations de l'âme. Il nous donne aussi une description des maladies, et il nous donne aussi une description du diagnostic. Il explique que le médecin, en appuyant ses doigts sur les artères, entend la nature lui parler en quelque sorte et lui décrire ses troubles. La maladie vient de la tension où est là tel viscère pour origine, la durée de la maladie sera de telle longueur, etc. Donc on voit qu'il a aussi un grand intérêt pour la médecine. Il touche aussi à la linguistique, et c'est important, pourquoi? Parce qu'il va s'opposer là-dessus à Eunome, qui considérait que l'inengendré était le nom propre de Dieu, et que, en quelque sorte, ces notions avaient une origine divine. Or, on peut trouver des conceptions semblables dans certains dialogues de Platon, comme le Cratyle, par exemple. On peut voir aussi peut-être l'influence de certains mysticismes, des oracles chaldaïques ou des choses comme ça. Mais pour Grégoire, il n'y a absolument aucun problème. Les noms sont inventés par l'homme. Donc, je ne vais pas trop développer, parce qu'on pourrait le faire, mais bon. Mais je voudrais simplement insister sur cette importance, si vous voulez, que peut avoir la culture, sur l'ouverture de Saint Grégoire de Nice, et sur le fait qu'il marque un moment important. Si vous voulez, il y a une corrélation entre le fait que Théodose stabilise l'Empire chrétien, entre le fait que les chrétiens s'investissent dans l'aristocratie locale, prennent en quelque sorte en main la société, et le fait qu'ils assument aussi la culture antique en tant que chrétiens. Voyons un peu sa vie. Il est né vers 332. Il a reçu une formation qui était moins complexe, on va dire, que celle de Saint Basile. Il a suivi des cours avec Césarée en Cappadoce, mais il ne va pas fréquenter les grandes écoles. Baptisé sans doute vers 357, ordonné lecteur par Basile. Et c'est alors qu'il va y avoir une crise qui est intéressante. Décrite par dans une lettre de Grégoire le théologien qui lui dit: j'ai dans mon caractère quelque chose de beau, en présence d'une décision mauvaise je m'irrite contre moi-même, aussi bien contre moi-même que contre mes amis. Or, puisqu'ils sont tous mes amis et apparentés, ceux qui vivent selon Dieu, pourquoi entendre de nous ne pas entendre de nous en toute franchise ce que chacun de nous murmure. Que t'est-il arrivé à toi, un sage? Quelle opinion as-tu de toi-même? Tu as rejeté les livres saints et délicieux que naguère tu lisais au peuple, ne rougis pas en entendant cela, ou bien tu les as abandonnés à la fumée. comme les gouvernails et les hoyos pendant l'hiver. Tu as pris en main ceux qui sont âcres et mauvais, tu as préféré le nom de recteur à celui de chrétien. Notre excellent ami ne reste pas ainsi plus longtemps, sors de ton ivresse, bien qu'il soit tard, reviens à toi, défends-toi devant les autels et les mystères dont tu t'es éloigné. Donc c'est une lettre de Saint Grégoire, le théologien, qui se situe environ en 364. Donc nous voyons d'ailleurs comment ce groupe, n'est-ce pas, fonctionnait avec une certaine franchise, une amitié. Et Grégoire, le théologien, qui s'était lié à Saint Basile à Athènes, est aussi devenu l'ami de son cadet. Que s'est-il passé? Eh bien, apparemment, Saint Grégoire a connu une crise, il a été séduit par les lettres profanes et par la vie de rhéteur. Or, ce qui est intéressant, c'est que cette crise se situe au milieu du IVe siècle. Et nous voyons, si vous voulez, qu'au IVe siècle, il y a, au milieu du IVe siècle, il y a un certain renouveau, on va dire, de la pensée classique traditionnelle, du paganisme, et que ce renouveau va avoir une série d'influences plus ou moins marquées sur un certain nombre de personnes. C'est une tentation qui va marquer un petit peu Basile, beaucoup Grégoire de Nice, mais aussi Jérôme, mais aussi Saint-Augustin, mais aussi Saint-Chrysostome, et finalement aussi Julien, qui faisait partie du même groupe et qui va devenir carrément l'apostat. Donc on a toute une gradation, en quelque sorte, suivant les individus, qui nous marque l'importance qu'a pu avoir cette crise. Chez Saint Grégoire de Nice, il ne va pas, évidemment, jusqu'à apostasier, non. Mais il va être séduit par l'enseignement des lettres profanes, il va devenir rhéteur, et il veut réaliser un certain idéal du rhéteur chrétien. Mais on voit que, assez vite, Saint Basile va lui écrire et va le solliciter pour écrire, en fait, ce qui va devenir un manifeste du monachisme de Basilien, le traité sur la virginité. Où d'ailleurs, il déclare explicitement qu'il s'est marié. Et on voit bien, si vous voulez, qu'il y a une certaine intimité, une aide qui va lui apporter à ce moment-là Saint Basile. En 372, Basile est évêque de Césarée depuis 370. Il va choisir Grégoire comme évêque de Nice. Mais c'est l'époque, nous sommes là encore sous Valens. C'est une époque de persécution, en particulier pour les Nicéens. Et en 376, il va être arrêté, avec la plupart des évêques orthodoxes, déposé, exilé. Et en 370, il va rentrer à Nice, où d'ailleurs le peuple va lui réserver un accueil chaleureux. Nous savons donc que Basile va quitter ce monde en 378. Selon la date traditionnelle, c'est même le 1er janvier 379. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il va se produire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que Grégoire, qui quand même avait vécu un peu en retrait par rapport à Saint Basile, qui était une personnalité exceptionnelle, eh bien, Grégoire va assumer, en quelque sorte, la charge d'héritier spirituel de Saint Basile. C'est-à-dire qu'il va reprendre l'héritage qu'a légué Saint Basile et il va le perfectionner, il va aller plus loin. Par exemple, il va rédiger son traité sur la création de l'homme pour compléter les homélies sur l'œuvre de ses jours, l'exaéméron de Basile. Au retour d'Antioche, il va passer voir sa sœur Macrine, et celle-ci est gravement malade. Et avec elle, il va avoir un dialogue d'une grande élévation sur la vie future, dont on va trouver un écho dans son traité sur l'âme et la résurrection. Il est de retour à Nice en 379. En 381, il se rend à Constantinople pour participer au concile convoqué par l'empereur Théodose. Il va y retrouver d'ailleurs Saint Éloire le théologien. Et il aura une très grosse influence sur le concile. D'ailleurs, les deux Grégoire auront une influence déterminante sur le concile. Il va accomplir plusieurs missions en Arabie, à Jérusalem, et rentrer à Nice en 381-382. Et on voit qu'il y a un rapprochement qui va s'opérer entre l'empereur d'une part et la cour, et Saint Grégoire. Par exemple, Théodose l'avait désigné au lendemain de concile de 381 comme étant l'un des évêques dont la communion était un gage d'orthodoxie. C'est quand même une position très importante. En 385, il est chargé de prononcer l'éloge de l'impératrice Facilia. Voilà, et il se lie d'amitié avec une femme de la haute noblesse, Olympias, et c'est pour elle qu'il va rédiger son commentaire sur le Cantique des Cantiques et son traité sur la vie de Moïse. Vers la fin de sa vie, il va jouer un rôle plus effacé. Il va participer encore à un synode à Constantinople et quitter ce monde en 395. Quant à ses œuvres, eh bien, on a déjà parlé plusieurs fois. Nous avons donc le traité sur la création de l'homme, ou explication de l'exaéméron, c'est-à-dire de l'œuvre des six jours, qui est fait pour compléter les homélies de Saint Basile. Et il va y exposer la conception, sa conception de la double création. Et on va y revenir. La vie de Moïse est considérée par certains patrologues comme le chef-d'œuvre de Grégoire, je pense à Danilo qui considère ça comme chef-d'œuvre, traité sur l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, commentaire sur le Cantique des Cantiques, le traité sur les titres des psaumes, le commentaire sur la prière, notre Père, les béatitudes sont importants. Enfin, on peut voir aussi qu'il a rédigé certaines œuvres à caractère théologique. Et en particulier, il va continuer la réfutation de Nome entreprise par Saint Basile. Donc c'est le contre-Nome 1, 2 et 3, contre les pneumatomaques, c'est-à-dire ceux qui combattent la divinité de l'esprit, et différents ouvrages contre l'arianisme, deux traités aussi qui sont dirigés contre Apollinaire, et un remarquable texte sur toute l'économie de salut qu'on appelle la Grande Catéchèse. C'est à la fois un traité dogmatique très profond, une œuvre apologétique, et en même temps, c'est une œuvre qui est destinée, disons, à s'opposer à la philosophie païenne. Je ne reviens pas sur le traité sur l'âme et la résurrection, on va en reparler, qui rapporte son dialogue avec Macrine, un traité sur les enfants morts prématurément, etc. Bon. Le traité sur la virginité, c'est sans doute le premier écrit de Grégoire. C'est un très bel exposé sur la virginité comme étant une forme de participation à la vie angélique. On possède aussi des traités plus courts sur la profession de chrétien, des sermons, une correspondance. Je ne rentre pas trop dans les détails. Ce qui me semble important, c'est peut-être de parler maintenant de sa doctrine. Les trois, donc grands cappadociens, Basile le Grand, Grégoire de Nice, Grégoire le Théologien, vont jouer un rôle déterminant pour la constitution de la théologie orthodoxe. Si Saint Basile et Saint Grégoire le Théologien sont des gens exceptionnels, Saint Grégoire de Nice a une propension à aller, disons, assez loin dans le domaine spéculatif. L'ampleur de ses synthèses, sa profondeur de sa pensée, et il arrive à fondre, en quelque sorte, les apports de Nicée, la doctrine d'Origène qui est passée au crible de l'orthodoxie, et la philosophie éclectique de son temps. Ce qui semble très important, et en particulier dans le contexte de sa controverse avec Onome, c'est la distinction entre l'essence et les énergies dans la connaissance de Dieu. Contre Onome, qui disait que le terme inengendré est un terme adéquat qui nous donne une connaissance claire de Dieu, il va insister sur la totale incompréhensibilité de l'essence divine. C'est un thème biblique. C'est Dieu ne peut pas, on ne peut pas voir Dieu. C'est un thème qui revient dans la Bible à différentes reprises. Moïse, bien sûr, Élie, par exemple. Dieu qui dit à Élie, tu ne peux pas voir ma face, cache-toi dans un creux du rocher, je vais passer devant toi et tu verras l'arrière de mon cou. Et aussi ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que avec Élie, on ne nous parle plus d'une manifestation brillante et extraordinaire, mais Élie nous parle, il dit Dieu n'était pas dans le fracas, il n'était pas dans une manifestation extraordinaire, mais il était dans le souffle d'une brise légère. C'est-à-dire que là, on a vraiment une spiritualisation, l'évolution vers une spiritualisation. Dieu est radicalement au-delà de la compréhension humaine, radicalement distinct de l'être infini et créé. Nul ne peut voir Dieu. Immense et infranchissable est l'intervalle qui sépare la nature créée de l'essence incréée. Celle-ci est infinie, est finie, celle-là est sans borne. Celle-ci est circonscrite dans ses propres limites par la sagesse de celui qui l'a faite selon son bon plaisir, mais de celle-là la mesure est l'infinitude. Dans la vie de celle-ci, on peut reconnaître aux êtres un commencement et une fin, mais la béatitude qui est au-delà de la création ne connaît ni commencement ni fin, mais elle existe toujours pareille à elle-même, au-delà de ce qui signifie commencer et finir. Et Grégoire s'appuie sur deux passages qui sont assez connus. La migration d'Abraham. Vous savez que Abraham reçoit l'appel de Dieu, quitte ta maison, ta famille, tes biens, et va vers la terre que je te désignerai. Donc Abraham s'en va, sans savoir où il allait. La vision de Moïse sur le Sinaï, Moïse a progressé dans la connaissance et il déclare qu'il voit Dieu dans la ténèbre, c'est-à-dire que Dieu est essentiellement ce qui transcende toute connaissance et échappe aux prises de l'esprit. Et dit-il, c'est en cela que consiste la véritable vision de Dieu, dans le fait que celui qui se tourne vers lui ne cesse jamais de le désirer. Et c'est là réellement voir Dieu que de ne jamais trouver de satiété à ce désir. Essence de Dieu. Mais en même temps, Dieu se manifeste à nous. Donc, antinomie. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, par exemple. Qu'est-ce qui se manifeste à nous? Eh bien, ce sont les énergies divines. Et là, Grégoire utilise le terme essence, ou sia, dynamis et énergie. Alors, ou sia, c'est l'essence dont on a déjà parlé. Dynamis, pour lui, c'est plutôt quelque chose qui désigne la puissance, mais qui se situe à l'intérieur même de l'essence. Et l'énergie, c'est en quelque sorte l'opération de l'essence, sa manifestation, si vous voulez. Bien sûr, à la différence, si vous voulez, des néoplatoniciens ou de gnomes, qui faisaient une sorte de gradation, l'un étant plus important que l'autre, le deuxième un peu moins important, le troisième un peu moins. Non, là il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Il y a une seule essence, et ces énergies sont des actes libres de Dieu. Ce qui veut dire que les énergies sont personnelles. Elles diffèrent de l'essence, et lui sont en même temps liées, puisqu'elles la manifestent, comme l'acte de forger diffère du forgeron qui lui est lié. L'énergie, c'est ce qui révèle en quelque sorte l'essence. Les énergies sont périphériques par rapport à l'essence. C'est ce qui l'entoure en quelque sorte. Par l'énergie, nous savons que Dieu est. Et par l'énergie, nous ne savons pas qui il est. C'est pour ça, si vous voulez, que la connaissance de Dieu peut être une connaissance commune. On peut croire en un Dieu créateur. Pourquoi? Parce que l'énergie est une et que ce qui se manifeste dans la création, c'est l'énergie. Donc on peut avoir une connaissance commune assez largement répandue du fait que Dieu existe, qu'il y a un Dieu créateur. Il suffit de regarder, de lever le nez et de regarder les étoiles. Savoir qu'il y a un Dieu en trois personnes, ceci relève, disons, de la révélation divine. D'autant plus que le péché a obscurci l'intelligence de l'homme et il ne peut plus, en quelque sorte, trouver son chemin vers Dieu. Il a besoin de la foi pour connaître Dieu, même à travers la création. Et en quelque sorte, l'économie du salut est opérée par ces énergies divines. L'énergie est numériquement une, et chacune des personnes l'exerce selon son mode propre. Du Père, par le Fils, dans l'Esprit-Saint. Donc, vous avez un mode d'action propre à chacune des personnes et une seule énergie qui manifeste, en quelque sorte, qui est l'action commune de ces trois personnes. C'est pour ça que l'énergie est personnelle, par définition. Et après ça, d'ailleurs, on dira un petit peu... Là, on est proche d'une autre notion. Je suis désolé d'employer un terme technique, mais nous sommes proches, bien que pas encore complètement, de ce qu'on appellera la péricorèse. Péricorèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une union d'amour profonde entre les trois personnes de la Trinité. Et cette union d'amour qui unit en quelque sorte les trois personnes de la Trinité se manifeste dans l'énergie qui est commune aux trois personnes. C'est-à-dire qu'il y a une unité profonde dans cette Trinité. Et que cette unité d'amour, l'est à la péricorèse des trois personnes. La relation d'amour profonde des trois personnes entre elles. Donc cette théorie, cette vision de l'exercice divine est une vision traditionnelle. On l'a déjà vu chez saint Athanase. On trouve d'ailleurs l'énergie dans l'Ancien Testament, on la trouve dans le Nouveau Testament. Je vous renvoie au livre de Jean-Claude Larcher sur les énergies divines. Puis elle va être précisée par la suite, développée par saint Maxime le Confesseur, d'abord, d'une façon très importante, à l'occasion de la controverse qu'on appelle monothélite, c'est-à-dire savoir si il y a une ou deux volontés en Dieu, puis, évidemment, par la suite, par saint Grégoire Palamas. Il faut bien comprendre que les énergies ne sont pas des entités intermédiaires, mais que ces énergies sont Dieu. Il n'y a pas de gradation, si vous voulez, comme dans la pensée platonicienne, néoplatonicienne, etc. Non, c'est le visage même de Dieu tourné vers le monde, vers la création. C'est le rayonnement propre à Dieu de son essence. C'est le rayonnement de l'essence divine. Et l'essence divine n'existe pas sans rayonnement. Qu'est-ce que ce serait qu'une essence divine qui n'aurait aucune activité extérieure? Dans cette vision trinitaire, il y a une structure de la Trinité. Le Père est cause, fondamentalement. Le Père est sans cause, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cause à son origine, mais il est cause fondamentale à l'intérieur de la Trinité. Il engendre le Fils et il inspire l'Esprit. On a déjà parlé. Le Fils, dans ce cadre, est en quelque sorte la puissance rayonnante, la puissance qui resplendit du Père, et l'Esprit est en quelque sorte la puissance perfectionnante de ce qui fut amené à l'être par la création à partir du Père et par le Fils. Et en même temps, les hypostases sont toutes et chacune également incompréhensibles, impensables, insaisissables. C'est une lettre de saint Grégoire de Nice, la lettre 24. Là-dessus se situe donc une insistance sur le rôle de médiation que peut avoir le Fils à l'égard de l'Esprit. Alors ça, évidemment, ça, certains se sont jetés là-dessus pour l'interpréter dans le sens du filioque latin, mais je suis ici le père Placide, et je voudrais simplement citer un texte d'un théologien catholique qui s'appelle De Halleux, H-A-2-L-E-U-X. La médiation du Christ à l'égard du Saint-Esprit s'identifie sans doute avec un rapport de révélation éventuellement éternisé plutôt qu'avec une causalité portant sur l'être même de l'Esprit. C'est-à-dire que sa procession originaire, puisque l'ordre de l'essia est réservé, l'ordre de la cause est réservé au Père. Jamais l'évêque de Nice ne semble avoir été jusqu'à faire porter par le Fils sur l'origine hypostatique de l'Esprit. Il s'agit toujours chez lui, semble-t-il, d'une épiphanie, d'une manifestation, et lorsque cette révélation est comprise comme éternelle et non seulement comme économique, il se pourrait que ce soit au titre de la puissance révélatrice qui s'actualise dans l'histoire de la création et de salut. C'est de Halle, c'est dans un recueil qui s'appelle « Patrologie et œcuménisme », page 366. Donc, ce « par le Fils » traduit une relation entre le Fils et l'Esprit qui ne fonde pas une relation dans l'ordre de la cause, mais dans l'ordre de la manifestation. Et cette relation se fonde aussi sur la consubstantialité, le fait que le Fils et l'Esprit sont de même essence. On peut donc dire que le « par le Fils » grec n'a jamais le sens d'une médiation causale du Fils par rapport à l'Esprit, mais toujours le sens d'une manifestation. D'ailleurs, c'est un problème, on pourra y revenir peut-être dans la discussion, qui va être développé par la suite dans la théologie, par exemple, de Grégoire de Chypre, et aussi, bien sûr, de Saint-Grégoire Palamas. L'Esprit Saint, c'est aussi, pour Grégoire, la gloire du Fils et de la Trinité tout entière. Cette gloire intra-trinitaire, le Fils la communique aux hommes afin de les faire participer à l'unité des divines hypostases. Donc, l'Esprit Saint manifeste la gloire trinitaire, l'Esprit Saint est la lumière intelligible dans laquelle nous voyons la lumière. Et comme entend la vision de Saint-Étienne, le premier martyr, Grégoire dira « La vision de la lumière n'est possible que dans la lumière. » Car comment voir le soleil si l'on s'écarte de ses rayons? La lumière monogène est donc contemplée dans la lumière du Père, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint qui en procède. Dans le domaine de la cosmologie et de l'anthropologie, on relève là aussi une division entre d'une part l'intelligible et d'autre part le sensible, entre la réalité incréée et le monde créé. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Grégoire de Nyssa, l'intelligible et le divin ne sont pas identiques, ne sont pas naturellement apparentés. Car ce qui caractérise l'intelligible en face du monde sensible, c'est qu'il est infini et illimité. Mais cette illimitation se réalise de deux façons différentes. L'esprit incréé, par exemple, a une infinitude en acte, éternellement donc réalisé, alors que l'infinitude de l'esprit créé est dynamique. Elle n'est pas réalisée. Et cet esprit créé, ce qui le caractérise, c'est sa capacité de pouvoir participer toujours davantage à la nature de Dieu en vertu d'un libre don de celui-ci. Cette capacité croissant éternellement à mesure même qu'elle est comblée, en sorte qu'il y ait à la fois rassasiement et désir, repos et mouvement. C'est un dynamisme particulier, dynamisme essentiel qu'évoque ici Saint Grégoire, c'est ce qu'il appelle l'épectase. Épectase, c'est ce mouvement propre à l'esprit créé, sans arrêt rassasié et sans arrêt poussé à désirer davantage. Et il s'appuie pour ce terme sur saint Paul, qui nous dit dans les Philippiens 3, 13, « Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être. » Comme il l'explique dans l'homélie sur le Cantique des Cantiques, la nature des choses se divise en deux parties, selon sa division la plus élevée, l'une sensible et matérielle, l'autre intelligible et immatérielle. Nous appelons sensible ce que nous percevons par la sensibilité, intelligible tout ce qui surpasse la perception sensible. De ces réalités, l'une, l'intelligible, est infinie et illimitée, l'autre, la sensible, est contenue dans certaines limites. À nouveau, la réalité intelligible se divise en deux. L'une est incréée et créatrice des êtres, comme l'Esprit Saint, toujours semblable à elle-même, supérieure à tout accroissement et à toute diminution, ne pouvant recevoir aucun bien. L'autre, amené à la naissance par la création, c'est nous, toujours tourné vers la cause première et continuellement conservé dans le bien par sa participation à la réalité transcendante, l'augmentation des biens, le changeant continuellement en plus grand, en sorte que ici non plus, on ne puisse considérer qu'il n'y ait aucune limite. Donc il y a une sorte d'infinité dynamique, infinitude dynamique de l'esprit, qui est opposée à la détermination de la matière. C'est ce qui explique aussi une distinction souvent soulignée par Grégoire entre le caractère historique de l'esprit, pour lequel le temps a un sens, et le caractère cyclique de la nature matérielle. Conception anthropologique qui s'accorde aussi à l'importance que donnait l'Église ancienne au monachisme, à la virginité, qui correspond à la nature même de l'esprit qui crée, que rien de limité ne peut rassasier. Rien ne dure, dit-il, dans la satisfaction des sens. Mais moi, je cherche un bien que ne suit pas la satiété et qui ne produit pas le rassasiement, mais où le désir augmente avec la possession. Et ailleurs, plus fortement encore, comme les bêtes tournant à la meule, nous tournant en rond, les yeux bandés dans la meule de cette vie. Je vais te dire cette ronde, faim, rassasiement, sommeil, veille, évacuation, remplissement, toujours l'un suit l'autre, et l'autre suit l'un, et jamais la ronde ne prend fin jusqu'à ce que nous échappions à cette meule. Donc il y a cette espèce de dynamique interne, propre à la personne humaine, qui le pousse, en quelque sorte, à aller sans arrêt plus loin. Et même la matière, pour Saint Grégoire, n'est pas close sur elle-même, elle tend vers l'esprit. La matière, pour lui, est destinée à être spiritualisée. Et le fait d'avoir une âme dans un corps n'est pas une déchéance, n'est pas une chute dans la matière, mais elle a une fonction médiatrice. Donc, Grégoire a une conception qui est nettement anthropocentrique. L'apparition successive des êtres lors des six jours de la Genèse annonce celle de l'homme et la prépare. Dans la pensée divine, l'homme était premier, il était présent en puissance dès les origines de la création, bien que dans l'ordre de la réalisation, il soit apparu le dernier. La liberté est inhérente à la nature de l'esprit, elle résulte de son caractère illimité. Mais comme en l'homme, cette infinitude est dynamique, en perpétuel devenir. La liberté se traduira concrètement par liberté de choix qui lui permettra soit d'acquérir les dons de Dieu, soit de les refuser. En ce sens, liberté, pureté, immortalité sont dans l'homme les éléments constitutifs de l'image de Dieu. Les hommes, par conséquent, par leur âme, appartiennent au monde intelligible. Et elles diffèrent entre elles que si elles se soumettent à la logique de la matière et du corps non transfiguré. Les âmes unies à des corps sont des sujets distincts qui possèdent ce qui est commun à toute la nature humaine selon un mode propre à chacun. Il n'y a qu'une seule âme humaine, mais chacun la réalise selon son mode. Et il existe ainsi entre tous les hommes, de tous les temps, une unité ontologique réelle. C'est ce qui explique aussi que, selon saint Grégoire de Nyssa et de nombreux pères, le Fils unique de Dieu, en assumant une nature humaine concrète et particulière, a cependant assumé par la même, radicalement, toute la nature humaine. De la même façon, Grégoire a une conception évolutive de la création matérielle. Dans la Bible, Genèse, nous lisons, version des Septante, « En archi, dans le principe ». Ce qui correspond d'ailleurs à l'hébreu, si nous lisons bien le texte hébreu, « Bé, réchit ». « Bé », ça veut dire « dans » en hébreu, « réchit », ça veut dire « le début ». « En archi » de la Septante, c'est une traduction exacte du texte biblique hébraïque. Donc il y a dans le principe une sorte de récapitulation originaire qui va en quelque sorte se déployer dans la création. Et par exemple, quand il parle de l'homme, il est dit « à l'image de Dieu, il les créa ». Hommes et femmes, il les créa. Pour Grégoire, il ne s'agit pas là cependant de deux moments chronologiques différents dans la réalisation du dessein de Dieu. La première création ne correspond pas à un état paradisiaque. C'est là la grosse différence. Ayant précédé la chute. Il s'agit en fait d'une distinction dans le dessein du Dieu créateur, dans l'éternité, et sa réalisation successive dans le temps. Historiquement, nos premiers parents ont été créés avec un corps animal, marqué par la différence des sexes et doté des passions, bien qu'alors sans péché. Mais ils ont été pourvus de cette nature animale en prévision du péché dans une intention miséricordieuse. En les soumettant au temps, la condition animale biologique permettait à l'homme de ne pas se fixer irrémédiablement dans le mal, comme les anges déchus, mais au contraire de faire l'expérience du péché par un mauvais usage de sa liberté, ayant goûté son amertume, de se tourner vers le bien. En d'autres termes, les aspects donc qui ont été ajoutés à la nature humaine sont des aspects qui ne sont pas négatifs, puisqu'ils permettent à l'homme, en quelque sorte, de progresser et de revenir à sa vraie nature. La condition biologique de l'homme le fait de lui un être de rédemption. Mais seul le corps spirituel, opposé à ce que saint Grégoire appelle les tuniques de peau, correspondent à la vraie nature de l'homme, au dessein de Dieu sur lui. Ces tuniques de peau, la mortalité, sexualité, passion liée au péché, sont surajoutées, pour Grégoire. Mais en même temps, sont surajoutées dans une intention précise, c'est-à-dire de permettre à l'homme de retrouver sa vraie nature. Voilà, quelques notions maintenant importantes, simplement pour la christologie. Le Christ a assumé une nature humaine complète, pour saint Grégoire, comportant un homme, un corps et une âme, parce que selon l'adage que les pères ont toujours opposé à Apollinaire, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Il s'est approché de la mort jusqu'à prendre contact avec notre dépouille et à fournir à la nature, au moyen de ce propre corps, le principe de la résurrection en ressuscitant l'homme tout entier par sa puissance. Donc, le but de la vie spirituelle du chrétien, c'est en quelque sorte de se dépouiller de cette tunique de peau et de la restituer, de restituer l'âme dans sa vraie nature. Ce retour est le fait de la synergie de la volonté humaine et de la grâce divine communiquée par les sacrements. Et la mystique de Grégoire est une mystique sacramentelle qui s'effectue dans plusieurs étapes, le baptême, la cesse chrétienne qui se situe dans son prolongement. Il ne s'agit pas de se couper des passions, il ne s'agit pas de se mutiler, de les détruire, mais il s'agit en quelque sorte de transfigurer la personne humaine, de restaurer l'âme en subordonnant les aspects, disons, liés aux passions ou aux appétits, en les subordonnant au nous qui, lui, est habité par l'Esprit-Saint. Il s'agit donc de faire pénétrer les effets de la grâce divine dans l'ensemble du psychisme humain et dans l'ensemble de la personne humaine. Et cette subordination des passions constitue une première forme d'impassibilité. Cette impassibilité, liée à la lutte contre les passions, rétablit en quelque sorte l'homme dans son rapport de liberté et de franchise avec Dieu. Toute la conception de l'histoire de l'univers pour Grégoire de Nyssa est aussi dominée par la certitude d'une instauration plénière et définitive de toute chose dans le Christ à la fin des temps. Le péché, la corruption, la mort seront anéantis, le mal perdra toute puissance. C'est ce qu'on a appelé aussi l'apocatastase, telle qu'elle est conçue par Saint Grégoire de Nyssa. Encore un mot. Est-ce que cela implique une négation de l'éternité de l'enfer? Bon, c'est ce qu'on avait reproché à Origène, etc. Et de la possibilité d'éternation intérieure. En fait, Grégoire ne s'intéresse pas vraiment à cet aspect-là. Ce qu'il voit plutôt, c'est la destinée collective de l'humanité. Et dans son commentaire du psaume 6, il écrit « Le péché disparaîtra et sera réduit à néant, et nulle malice ne subsistant nulle part. Le domaine du Seigneur s'étendra d'une extrémité à l'homme, mais les hommes resteront dans l'état où ils sont fixés maintenant, en choisissant entre le bien et le mal. » C'est-à-dire qu'il y a toujours cette possibilité de choix. S'il ne s'agit pas d'imposer donc un salut aux esprits révoltés en faisant violence à la liberté ni à leur attentissement physique. Il arrête plus volontiers son regard sur le fait que, dans les siècles sans fin, les âmes des chrétiens, membres du Christ, progresseront à jamais dans la découverte des trésors inépuisables de la divinité. Le caractère infini et incompréhensible de la divinité surpasse toute intelligence. En effet, celui dont la gloire est magnifique et sans limite, comme en témoigne le prophète, est toujours considéré dans la même élévation. Pareillement, le grand David, qui avait établi en son cœur ses belles montées et qui progressait toujours de puissance en puissance, s'est pourtant écrié devant Dieu, « Mais toi, Seigneur, tu es sublime à jamais. » À travers ce mot, je pense qu'il voulait dire ceci, dans toute l'éternité du siècle sans fin, celui qui court vers toi se grandit et s'élève chaque fois, en s'accroissant toujours par la progression des biens de façon proportionnée. Mais toi, tu es toujours le même, tu demeures à jamais sublime, tu ne peux jamais paraître bas à ceux qui s'élèvent, car tu es toujours au même degré plus haut et plus sublime que le pouvoir de ceux qui te cherchent, qui cherchent à s'élever. Voilà donc ce que l'apôtre enseignait à propos de la nature des biens indicibles lorsqu'il disait que l'œil n'a pas vu ce bien même s'il regarde toujours, ou que l'oreille n'a pas entendu ce qui est clair en soi-même. De fait, le bien obtenu est sans cesse plus grand que le bien précédent. Il ne met pas pour autant un terme à la quête, mais l'obtention d'un bien devient commencement d'une découverte des biens plus élevés pour ceux qui progressent. Celui qui monte ne s'arrête jamais, allant de commencement en commencement, et le commencement des biens, toujours plus grand, n'a jamais de fin. Jamais le désir de celui qui progresse ne s'en tient au bien déjà connu. Un autre désir plus intense, puis un autre encore plus profond par la suite, pousse l'âme qui se lève sans cesse sur la route de l'infini par des biens toujours supérieurs. Voilà, je vous remercie. Donc je me suis appuyé pour cet exposé qui était un peu difficile quand même. Je me suis aidé beaucoup de Danielou et du Père Placide. Voilà, le Père Placide de Sales pour son approche qu'ils ont théologique. Merci.
Merci beaucoup pour cette causerie. Et ça serait bien si vous pouvez revenir un instant sur la double création. Je pense que tous nos premiers auditeurs ont parfaitement compris que la seconde création est celle de la seconde chance, finalement, qui est donnée à l'homme. Et peut-être n'ont-ils pas saisi quelle était la première dans l'Esprit de Dieu. Donc, pouvez-vous revenir un instant sur cette double création telle qu'on la décrit, telle qu'on l'explicite généralement chez Grégoire de Nice, sans faire de comparaison avec d'autres explications sur la double création dont il aurait pu s'inspirer.
C'est-à-dire que pour Grégoire de Nice, si vous voulez, la double création est liée aussi au fait qu'il puisse permettre que Dieu permette à l'homme, en quelque sorte, de réacquérir un statut qu'il a perdu. C'est simple. Et donc, c'est une perche, en quelque sorte, qui est tendue à l'homme. C'est-à-dire que ça a une conception tout à fait dynamique et différente de la vision que pouvaient en avoir certains originistes. C'est tout à fait autre chose. C'est autre chose. Il ne s'agit pas d'une chute, etc., mais il s'agit plutôt d'un moyen pour l'homme de revenir, disons, à la béatitude qu'il avait connue. Voilà. Donc je crois qu'il faut voir cette vision dynamique de la création. On peut aussi voir peut-être une vision de la puissance et de l'acte, si vous voulez. Enfin, en puissance, et en acte, en deux temps en quelque sorte, et en quelque sorte le premier aspect de cette création, dans cette optique-là, serait plus lié à un dessein de Dieu qui prévoit aussi la chute. C'est-à-dire que la chute est prévue par Dieu, et en même temps, Dieu donne à l'homme la possibilité, y compris dans son dessein d'origine, de revenir à son état premier. Voilà, je crois que c'est ça un petit peu. Mais vous connaissez certainement ces choses.
Oui, c'était intéressant de vous entendre le préciser, et surtout, schématiser de cette façon, parce que je pense que nos auditeurs se posent la question sur la double création, qu'est-ce que ça peut bien pouvoir dire.
Oui, on peut le dire simplement, c'est-à-dire que il y a une création, un dessein de Dieu, si l'on peut dire, et il y a la réalisation de ce dessein.
Mais je pense qu'en disant en puissance, en acte,
voilà.
Voilà. Solutionner la question.
Donc il ne s'agit pas d'un état angélique, etc. Non, c'est pas ça du tout. C'est une vision plutôt comme, enfin je crois, dans le sens de la puissance et de l'acte. C'est-à-dire d'une part d'un dessein et de la réalisation de ce dessein.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.